Bonjour! Je vous emmène aujourd'hui visiter une abbaye pour vous démontrer que les carrières monumentales, les odyssées professionnelles sont rarement un itinéraire fluide qui se déroule devant nos pieds réjouis sous la forme d'une pente facile et régulière vers des sommets radieux, mais plutôt des chemins caillouteux, méandreux, plein haut et plein de bas. Et que peut-être que c'est pas grave. Alors on nous le dit, on nous le répète, les carrières ne sont plus linéaires, elles ne sont plus gravées dans la pierre. Et l'image tombe à pic, puisque si nous allons regarder du côté de la vieille pierre, elles ne l'ont pas toujours été non plus. Ainsi, les édifices historiques ont parfois connu des trajectoires plutôt rock'n'roll, et je ne résiste pas au plaisir d'une petite analogie minérale. Les carrières monumentales ne sont pas toujours sans détour. Ainsi, si l'abbaye de Fontevraud était un collaborateur lambda, elle serait un modèle de carrière non linéaire avec ses hauts glorieux et ses sinistres bas. Embauchée à grands frais par l'énergique Aliénor, d'ailleurs elle aussi un modèle de carrière non linéaire, qui lui confia entre autres la mission délicate de former ses deux enfants, la jeune Zec de l'époque. Et puis, petit à petit, le déclin de l'Empire Plantagenet plonge l'entreprise familiale dans la crise financière, puis dans la crise tout court, sous la forme de la guerre de Cent Ans. La carrière de Fontevraud stagne et s'enlise, jusqu'à un changement de direction. Reprise par les Bourbons, l'entreprise connaît un sursaut, rénovation des locaux, diversification. Pendant deux siècles, Fontevraud retrouve sa gloire. Mais un autre changement de direction va mettre un sacré coup d'arrêt à sa carrière, c'est la Révolution. Placardisée, la voilà qui est finalement devenue une prison. Étape qu'elle a certainement vécue comme une sacrée rétrogradation. Mais la disgrâce n'est pas une fatalité. Sa carrière est relancée par un recruteur des monuments historiques, Prosper Mérimée, qui la remarque en 1840 sur les réseaux sociaux de l'époque. Et on offre à Fontevraud une mise à niveau et des formations jusqu'à la fermeture de la prison en 1963. Devenue patrimoine mondial de l'UNESCO en 2000, elle a crevé le plafond de verre. Alors je m'amuse à musarder dans les méandres des grandeurs et des misères de Fontevraud, parce que son itinéraire professionnel est finalement assez représentatif des hauts et des bas potentiels de nos vies de boulot. Et que la leçon à en tirer, c'est que les réussites comme les échecs ne prédestinent en rien à nos trajectoires futures. Nous pouvons tous traverser des heures de gloire, des périodes fastes, des embourbements, des gamelles spectaculaires, des sombres placards. Les changements de direction ou simplement de chef peuvent générer des transformations dans le service qui rendent votre poste redondant, qui vont faire perdre un mentor ou modifier profondément le fonctionnement d'une équipe ou d'un service, et pas toujours en mieux. Les évolutions technologiques qui rendent vos compétences obsolètes, l'âge et les préjugés pour peu que vous ayez une caractéristique qui rend susceptible d'être discriminé, tout ça peut vous envoyer au rebut de l'inemployabilité. Il y a mille et un changements possibles dans nos vies professionnelles qui peuvent avoir raison d'un sentiment de plaisir au travail, d'accomplissement, de satisfaction professionnelle et nous plonger dans le désarroi et le doute de soi. Mais si le pire n'est jamais sûr, le meilleur non plus. Il y a toujours d'autres aurores et une vie entière n'est pas condamnée à s'enliser dans le sinistre version dimanche de novembre sous prétexte qu'on a connu un revers ou traversé des épreuves. Certes, on imagine que notre Fontevraud ne s'est pas réduite son évolution au 18e et il est évident que les déconfitures professionnelles laissent des traces émotionnelles qu'il vaut mieux traiter et prendre le temps de digérer. Mais pour autant, retenons deux enseignements de son histoire. Le premier, c'est oublier l'enclume de la réussite. La réussite ne forge pas l'obligation de réussite, l'injonction de toujours plus, de toujours mieux. Une réussite, au fond, se suffit à elle-même et ne signifie rien d'autre qu'une occasion d'être fier de soi et de mettre dans sa musette à capacité celle qu'on a exprimée pour réussir et qu'on pourra ressortir à l'occasion quand nous entreprendrons autre chose qui nous tient à cœur. La réussite ne nous condamne pas non plus à l'ascension. Elle n'est pas une obligation de toujours plus fort, de toujours plus loin. Elle est une étape comme une autre sur nos chemins professionnels, une étape dont la caractéristique est d'être jubilatoire et d'être l'indicateur de nos compétences, de nos ressources, de nos qualités, mais qui n'exige aucunement de nous de rechercher uniquement ascension et promotion. Ces associations courantes et parfois inconscientes entre réussite et obligation de toujours mieux peuvent générer de la motivation chez les uns, mais peuvent aussi générer de la crainte chez les autres. Crainte de davantage d'exigences, de responsabilités, d'atteindre le seuil au-delà duquel on ne se sent plus à la hauteur, etc. Et ces craintes, notre petite mécanique interne bien rodée va les transformer en procrastination ou en stratégie d'échec, histoire de nous protéger d'une réussite qui devient alors une menace. Le deuxième enseignement à tirer, c'est d'oublier le marteau de l'échec. L'échec n'ancre pas dans l'échec, ne condamne pas à l'échec. Il est lui aussi une étape comme une autre sur le parcours, une étape dont la caractéristique est d'être malheureuse et pénible, mais aussi porteuse d'enseignements, à défaut d'être fondamentalement réjouissante. Alors autant en faire un événement dans un parcours plutôt qu'un état d'esprit, ou pire, une définition de notre identité. Et puis n'oublions pas que l'échec n'en est pas toujours un. Parfois, ce que nous considérons comme un échec, une épreuve, peut se transformer en opportunité inattendue, une sorte de un mal pour un bien. J'ai pour ma part quitté brutalement l'éducation nationale après un bras de fer absurde avec un chef d'établissement qui visiblement ne voulait pas d'une prof handicapée et a refusé l'intégralité des aménagements de poste demandés par les ergothérapeutes de mon centre de rééducation, le tout emballé dans des préjugés et des propos parfaitement humiliants. Alors j'en ai voulu bien sûr, mais s'il avait été un modèle d'accueil et d'ouverture d'esprit, je me serais peut-être retrouvée un peu trop à l'aise dans le confort relatif d'un métier qu'en même temps je n'aimais plus. Je n'aurais peut-être pas eu à rebondir et j'aurais peut-être pas développé l'activité que j'ai aujourd'hui et qui me réjouit. Alors si la réussite ne condamne pas aux étoiles et que l'échec n'empêche pas les renaissances, il n'est peut-être pas nécessaire ou souhaitable d'inscrire un projet professionnel dans la droite lignée d'un événement unique qui décrit une situation ponctuelle et qui ne définit pas ce que vous êtes et ce dont vous êtes capable ou pas. Alors ruminez tant que vous voulez vos heures sombres, mais ne les laissez jamais dicter à votre oreille échaudée les itinéraires à venir. De graver dans le marbre votre destin, d'ancrer des croyances dévalorisantes qui vous empêcheront d'avancer, non pas forcément vers le haut, mais dans la direction que vous voulez. Alors trois étapes pour vous, en cas d'échec. Premièrement, pensez vos plaies. Deuxièmement, reposez-vous et pensez à la nouvelle direction que vous voulez prendre. Et puis relevez-vous. Et allez-y pas à pas. Et je vous souhaite bonne route.